La diplomatie iranienne a réitéré le droit inaliénable de la nation iranienne de bénéficier du progrès scientifique. En Irak, l'ambassade américaine à Bagdad a été mise en état d'alerte. Un convoi logistique de l'armée US a été visé à Zirar et des bases américaines ont été aussi attaquées en Syrie et au Soudan. 4 morts et des centaines de blessés dans des manifestations de masse, selon les rapports de la police. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a condamné les propos de la Maison-Blanche, soulignant que les progrès de la science et de la recherche, y compris dans le domaine de l'aérospatiale, sont le droit inaliénable de la nation iranienne et que de telles déclarations indiscrètes ne briseraient pas la détermination des Iraniens à progresser dans ce domaine. Le ministère iranien de la Défense a annoncé jeudi 30 décembre que la fusée porteuse de satellites de construction nationale SIMOR a lancé avec succès 3 dispositifs de recherche dans une mission de recherche spatiale qui a marqué une autre réalisation pour le programme spatial civil de l'Iran. Plus tard jeudi, le département d'État américain a déclaré que Washington reste préoccupé par le développement par l'Iran de lanceurs spatiaux. Il a également affirmé que de tels lancements de satellites violeraient une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant la République islamique d'Iran à se tenir à l'écart de toute activité liée aux missiles balistiques capables de transporter des ogives nucléaires. Vendredi, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a condamné les propos de la Maison-Blanche. Aucune résolution n'empêche la République islamique d'Iran de poursuivre son programme spatial et les expériences associées, y compris dans le domaine des portes satellites. Ainsi, citer la résolution 2231 du Conseil de sécurité est purement fallacieux et fondamentalement faux, a-t-il souligné. Comme indiqué précédemment, la République islamique d'Iran a le droit d'utiliser des technologies pacifiques dans le cadre du développement de sa recherche scientifique, conformément aux normes internationales, et ce faisant, elle n'attendra pas l'opinion de certains pays qui cherchent à imposer leur dictat. Ajouté M. Khatibzadeh rendant hommage aux jeunes scientifiques iraniens pour leurs réalisations remarquables dans le domaine de l'aérospatiale, malgré les sanctions illégales et injustes imposées par les États-Unis à l'Iran. L'ambassade américaine dans la capitale irakienne Bagdad est en état d'alerte. Le site d'information Ashar a fait part de l'activation du système de défense aérienne de l'ambassade américaine à Bagdad. Les forces de sécurité irakiennes ont également largement investi l'ambassade US à Bagdad. Simultanément, un groupe de manifestants ont mis le feu à une maquette de l'ambassade américaine à Bagdad. Les protestataires qui portaient des drapeaux irakiens se sont rassemblés dans la zone verte de Bagdad, fortement gardée. Le rassemblement marque le 2e anniversaire de l'incendie d'un poste de contrôle de l'ambassade US par des manifestants irakiens après une frappe aérienne américaine sur les positions des forces armées des unités de mobilisation populaire Ashtal-Shabi. Lors des manifestations de cette époque-là, des affrontements ont éclaté entre les manifestants et forces de sécurité de l'ambassade américaine, obligeant les États-Unis à expédier davantage de troupes au Moyen-Orient. Par ailleurs, un convoi logistique américain a été attaqué par un obus RPG à Zirar, près du champ pétrolifère d'Al-Sabah. Suite à l'attaque, le groupe de résistance irakien Sabah al-Kahf a publié une vidéo dans laquelle il a revendiqué l'opération. Selon la vidéo diffusée par le groupe, au moins 4 des 7 véhicules transportant du matériel logistique militaire américain ont été touchés. Il s'agit de la 255e attaque par l'axe de la résistance irakienne contre des convois logistiques américains depuis le début de cette année 2021. Aussi, 23 de ces attaques ont été menées contre des convois et des positions militaires des troupes américaines dans la province de Zirar. En Syrie, une base militaire américaine située dans la province syrienne de Hasaka au nord-est a été frappée par plusieurs obus de mortier. Une base militaire américaine située dans la ville d'Al-Shadadi, dans le gouvernorat de Hasaka, a été frappée avec des obus de mortier, a-t-on appris des sources d'information syriennes. Les sirènes d'alerte ont retenti à la base et le niveau de préparation au combat y a été élevé. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque mortier contre la base américaine. Selon une autre dépêche, deux roquettes ont touché ce vendredi 31 décembre le puits de pétrole de Conoco à des réserves près de laquelle se trouve une base militaire américaine. Sabre News a affirmé que la base avait été visée par 4 roquettes de 107 mm. Rappelons qu'il y a deux semaines, la base des forces américaines dans la zone du champ pétrolier d'Alomar, dans la périphérie de Deir ez-Zor, avait été touchée par un missile. Des sources locales à proximité de la base ont confirmé que 4 explosions successives avaient été entendues et que des colonnes de fumée se sont élevées à proximité du champ pétrolier d'Alomar, qui est utilisé par les forces de la coalition américaine comme base illégale à l'est des Rezors, en Syrie. La police soudanaise a confirmé vendredi que 4 manifestants avaient été tués et des centaines de personnes blessées lors des manifestations de masse réclamant un régime civil la veille dans la capitale Khartoum et ses régions voisines. 4 manifestants ont été tués tandis que 297 autres ainsi que 49 policiers ont été blessés à Omdurman, a déclaré la police soudanaise dans un communiqué. Omdurman est la ville la plus peuplée du Soudan, située sur la rive occidentale du Nil, en face de la capitale Khartoum. La police a accusé les manifestants d'avoir commis des actes de sabotage et d'avoir attaqué les forces de l'ordre, causant des pertes humaines et des dommages aux propriétés publiques et privées. Soulignant le caractère pacifique de la situation, la police soudanaise a appelé à une coordination avec les leaders de la manifestation pour démasquer ceux qui cherchent à créer un fossé entre la police et le peuple. Jeudi, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Khartoum et d'autres villes lors de la 11e manifestation de masse depuis le 25 octobre, date à laquelle l'armée a soudainement pris le contrôle du pays. Le Soudan traverse une crise politique depuis que le commandant général des forces armées Abdel Fattah al-Burhan a déclaré l'état d'urgence le 25 octobre et dissout le Conseil souverain et le gouvernement. Le 21 novembre, Abdel Fattah al-Burhan et le premier ministre Abdallah Hamdok, qui avait été démis de ses fonctions, ont signé une déclaration politique prévoyant le rétablissement de M. Hamdok dans ses fonctions de premier ministre, mais cet accord n'a pas encore réussi à calmer la rue. Les manifestations de rue ont également été alimentées par la hausse des prix de la nourriture, des gaz de cuisson et des produits de première nécessité dans le pays. Les enfants en situation de conflit sont victimes d'une augmentation des violations graves, déplore l'UNICEF. Les conflits armés, les violences intercommunautaires et l'insécurité ont continué de faire des milliers de victimes parmi les enfants tout au long de l'année 2021, a déclaré vendredi 31 décembre 2021 le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Selon Henrietta Fore, directrice exécutive de l'UNICEF, les parties en conflit continuent de faire preuve d'un mépris terrible pour les droits de l'enfant, année par année. Des enfants souffrent et des enfants meurent à cause de cette insensibilité. Tous les efforts doivent être faits pour protéger ces enfants contre tout danger, a-t-elle ajouté. En 2020, l'ONU a vérifié 26 425 violations graves contre des enfants, mais les données ne sont pas encore disponibles pour cette année. Toutefois, le nombre de cas confirmés d'enlèvement et de violences sexuelles a augmenté à un rythme alarmant au cours des 3 premiers mois de 2021, de plus de 50% et 10% respectivement. La Somalie a enregistré le plus grand nombre d'enlèvements vérifiés, suivi de la République démocratique du Congo et des pays du bassin du lac Tchad. Tchad, Nigeria, Cameroun et Niger. Les cas vérifiés de violences sexuelles étant les plus élevés en RDC, en Somalie et en République centrafricaine. L'Afghanistan compte le plus grand nombre de victimes vérifiées chez les enfants depuis 2005. À l'échelle mondiale, le pays représente 27% de tous les enfants victimes vérifiées avec plus de 28 500 incidents. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord rassemblent quant à eux le plus grand nombre d'attaques confirmées contre des écoles et des hôpitaux, avec 22 au cours des 6 premiers mois de cette année. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Premier chemin de fer de la résistance. Plus l'Iran, l'Irak et la Syrie approfondissent leurs relations et coopération, plus Washington et son allié israélien sont déçus et dépités de voir leur complot visant à les diviser tomber à l'eau. À cet égard, l'Iran et l'Irak ont signé un accord faisant état du début de la reprise de la construction d'une liaison ferroviaire qui vise à relier l'Iran et la Syrie via Bassora en Irak. Au cours d'une visite de 2 jours à Bagdad, le ministre iranien des routes et du développement urbain, Rostam Rassemi, a rencontré le ministre irakien des transports ainsi que le premier ministre et le président du pays. Lors de la rencontre, les deux parties ont signé un accord faisant état du début de la construction d'une liaison ferroviaire qui débutera le mois prochain. Ce projet vise à relier l'Iran et la Syrie via Bassora en Irak. La construction de la liaison ferroviaire Iran-Irak-Syrie avait été décidée en 2010 dans le cadre du marché commun régional, mais elle n'a pu voir le jour après la guerre en Syrie. Ce projet ferroviaire a pour objectif d'ouvrir de nouvelles routes commerciales et de consolider les liens entre ces trois pays. Ce long chemin de fer traversera tous les trois pays. En Iran, cette nouvelle ligne ferroviaire va relier la capitale iranienne Téhéran au sud du pays en passant par les trois villes iraniennes Abadan, Khorramshahr et Salamche. Puis elle reliera l'Irak à la Syrie en passant par Bassora, Bagdad et Fallujah. L'établissement de la ligne ferroviaire de 32 km reliant Bassora à Bagdad pourrait représenter un grand changement pour l'Iran et l'Irak. L'Irak dispose de plusieurs lignes de chemin de fer, dont la voie ferrée Bagdad-Bassora-Mossoul, qui relie la Turquie à l'Europe via Rabia, située à la frontière avec la Syrie. Cette voie ferrée, qui reliera Salamche en Iran à Bassora en Irak, ouvrira la voie aux pays de la résistance, à savoir l'Iran et l'Irak, à l'Europe via la Turquie. Cet itinéraire alternatif pourrait contourner d'éventuels problèmes sécuritaires liés à la présence de l'US Navy au détroit d'Hormuz. L'autre voie ferrée, et qui est encore plus importante, reliera l'Irak à la Syrie via Abu Kamal en Syrie et Al-Raïm en Irak. Au nord de Bagdad, en passant par les villes irakiennes de Fallujah, Ramadi et Adissa, cette ligne de chemin de fer continue son itinéraire jusqu'à la zone frontalière d'Al-Raïm, située à la frontière avec la Syrie, dont une sous-ligne de 144 km relie Al-Raïm au complexe industriel irakien des phosphates, situé dans la région frontalière d'Al-Aqashat. Cette ligne de chemin de fer longue de 375 km va relier l'Irak aux ports arabes de la côte méditerranéenne en Syrie et au Liban. Cette ligne de chemin de fer en Syrie va se diviser en deux voies. Après avoir traversé la ville d'Abu Kamal, la première voie parcourt les villes syriennes, à savoir Alep, Idlib et enfin Latakia. La deuxième voie continuera son itinéraire, traversant les villes d'Homs et Damas, arriveront au Liban pour aboutir à la ville d'Al-Khalil en Cisjordanie occupée. Ce qui compte le plus est la mise en service de cette voie ferrée, reliant l'Iran et l'Irak à la mer Méditerranée, et il est certain que l'aboutissement d'un tel projet constituera une grande victoire politique, économique et militaire pour l'Iran et les pays de l'axe de la résistance. Soulignant l'importance de la reprise du transport terrestre entre l'Irak et la Syrie, Ali Hamoud, le ministre syrien du transport, avait déclaré il y a 3 ans que la ligne ferroviaire irako-syrien faisait partie des projets portant sur la reconstruction du pays, dont les infrastructures ont été largement endommagées suite à 8 années de guerre. Quelques 18 000 km de chemin de fer ont été touchés au cours de la guerre, soit près de 90% de la liaison ferroviaire de la Syrie avec les pays voisins. Selon le ministre syrien, cette nouvelle ligne ferroviaire s'inscrit dans le cadre du développement des réseaux ferroviaires en Asie centrale, lesquels relient la Syrie à la Chine et à la Russie. La partie syrienne se chargera de la construction de 32 km et la partie irakienne prendra en charge le reste de la construction de la voie ferroviaire assurant la liaison entre Bagdad et Karbala, ville irakienne, au territoire syrien. Cette voie ferrée facilite le déplacement des touristes et l'échange de marchandises entre l'Iran, l'Irak et la Syrie, a détaillé le ministre syrien du Transport. Une fois arrivé à la capitale syrienne Damas, la voie ferrée se divise en 3 voies. Le premier continue son itinéraire vers la ville d'Al-Khalil en Cisjordanie occupée, le second vers Beyrouth, la capitale libanaise, et le troisième vers Tripoli, d'où l'importance stratégique de cette ligne de chemin de fer. L'importance stratégique de ce projet est si grande qu'il pourrait conduire également à la relance de la ligne ferroviaire dite Bagdad-Berlin, qui a été proposée par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale.